C'est vrai que depuis que je suis élue, enfin, il y a des mots qui ont été prononcés au Sénat pour la première fois par mois. Par exemple, cisgenre. Quand j'ai dit à ma collègue Jacqueline Eustache-Brignaud que, enfin, qu'elle était cisgenre, ce qui est, à ma connaissance, c'est un fait. Elle a hurlé que c'était insultant. Bon, et beaucoup de gens, même des collègues proches, hein, m'ont dit « mais ça veut dire quoi ?» Bon, voilà, il y a tout un tas de notions que j'ai été la première à verbaliser dans cet hémicycle. Et donc ça montre à quel point c'est important, parce que si j'ai été élue en 2021, si en 2021 on n'avait toujours pas dit cisgenre au Sénat, vous voyez qu'on a un gros problème quand même.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Juliette et vous écoutez le Lobby, le podcast queer de Radio Campus Paris. Je reçois aujourd'hui une sénatrice représentant les Françaises et les Français établis hors de France, issue du groupe écologiste Solidarité et Territoire, GEST. Elle se positionne également comme féministe et antiraciste, ce qui détonne par rapport au profil traditionnel qui siège majoritairement au Sénat. Alors que le gouvernement fraîchement nommé s'oppose à l'égalité des droits des personnes LGBTQIA+, comment la parole des minorités peut-elle encore se faire entendre dans le monde politique? Pourquoi la présence de personnalités queer au sein d'institutions politiques comme le Sénat peuvent-elles changer la donne? Comment arrive-t-on à se faire entendre en tant que femme lesbienne sur une scène politique très conservatrice? Vous l'aurez compris, mon invitée cette semaine s'appelle Mélanie Vogel et je suis ravie de pouvoir lui poser toutes ces questions. Mélanie Vogel, bonjour.
Bonjour.
D'abord, j'aimerais vous interroger sur votre regard sur l'actualité politique. Récemment, il y a notamment eu l'éviction de Lucie Castet et la nomination d'un gouvernement Barnier à la tendance Manif pour tous. Plusieurs discours se sont axés autour de la lutte contre l'ouverture du mariage aux personnes LGBTQIA+. On a entendu des propos transphobes et d'autres qui se sont opposés à la constitutionnalisation de l'IVG. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a déclaré sur LCI il y a quelques jours être toujours opposé à la PMA et au mariage pour tous. Comment peut-on comprendre cette situation et selon vous, traverse-t-on un moment de crise pour le droit des femmes et des personnes queer?
Merci pour l'invitation et merci pour cette question à laquelle il est difficile de répondre parce que la vérité, c'est que je suis très, très inquiète. Et je pense que je ne suis pas la seule. On a eu, après la dissolution choisie par Emmanuel Macron, qui a été une des décisions les plus irresponsables que j'ai jamais vues en politique, en tout cas récemment en France, puisqu'il a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale à un moment où plus que jamais il y avait un risque que l'extrême droite parvienne à former une majorité absolue. Et malgré cela, on a eu une campagne qui a donné... des indications assez fortes de la part des Françaises et des Français. D'abord, les Françaises et les Français ont dit qu'ils voulaient du changement, qu'ils voulaient une rupture avec le macronisme, que parmi les changements qui leur étaient proposés, c'était celui du Nouveau Front Populaire qu'ils préféraient, puisqu'ils ont envoyé le plus de députés du Nouveau Front Populaire. Et puis, ils ont dit aussi autre chose qui est très important, c'est qu'ils refusaient que l'extrême droite obtienne une majorité absolue, puisque dans leur grande majorité, ils ont fait le Front Républicain, c'est-à-dire que beaucoup de gens de gauche sont allés voter pour des candidats de droite contre l'extrême droite, et des gens de droite sont allés voter pour des candidats de gauche contre l'extrême droite. Et une fois qu'on a eu ça... quelle a été la décision d'Emmanuel Macron? Plutôt que de nommer quelqu'un qui représentait au fond le changement et le Front Républicain, il a choisi de nommer quelqu'un issu d'une force politique ultra marginalisée en France. Les Républicains, ils représentent entre 4 et 6% de l'électorat. Ça fait 4 élections où ils se ramassent. Disons qu'ils sont vraiment à la marge de l'espace politique français. Donc de désigner quelqu'un qui avait issu d'un rang qui avait perdu... et placé dans les mains de l'extrême droite, puisque c'est aujourd'hui l'extrême droite qui choisit si le gouvernement tient ou pas. Donc c'est très très grave. C'est très grave parce que c'est une trahison de ce que c'est le sens de la citoyenneté, de voter. Et puis c'est grave sur le fond, puisqu'on a un gouvernement, vous l'avez dit, où près de la moitié des ministres représentent une frange homophobe, LGBTI-phobe, antiféministe, qui est minoritaire en France dans la société. C'est-à-dire que quand on a vu le jour où on a voté l'introduction du droit à l'IVG dans la Constitution, la France a fait la fête. La société française aujourd'hui, elle n'est pas homophobe, transphobe, contre les droits des femmes en majorité. Il y a des groupes qui se structurent de plus en plus, mais majoritairement, elle ne l'est pas. Et là, on a un gouvernement presque une majorité des ministres s'opposent à l'égalité des droits. Et c'est très, très grave et très inquiétant.
Quelles conséquences ces tendances du gouvernement peuvent-elles avoir, selon vous, sur la communauté LGBTQIA+ ?
Bah, malheureusement, des conséquences assez concrètes, puisque Bruno Retailleau, qui, pour prendre seulement cet exemple que vous avez cité, qui est ministre de l'Intérieur, bon, moi, je le connais bien, puisque c'était le président du groupe Les Républicains au Sénat. J'ai débattu... difficilement avec lui à de très nombreuses reprises au Sénat, et c'est quelqu'un qui a voté contre toutes les propositions visant à faire progresser l'égalité des droits, qui a récemment voté contre l'introduction du droit à l'IVG dans la Constitution, contre un meilleur accès à l'IVG, contre les droits des personnes trans, puis qui s'était opposé à l'interdiction des thérapies de conversion parce que nous souhaitions que cette interdiction protège aussi les personnes trans, puisque les Républicains souhaitaient exclure les personnes trans de cette protection. C'est quand même incroyable, les thérapies de conversion, c'est des tortures. Les Républicains au Sénat ne souhaitaient pas qu'on arrête de torturer les personnes trans en France, voyez, voilà. Il s'est récemment positionné en faveur de l'interdiction de l'accès aux soins pour les mineurs trans. Et cette personne est aujourd'hui ministre de l'Intérieur. Et il y a une série de ses collègues qui étaient aussi membres du groupe Les Républicains au Sénat qui sont devenus sénateurs avec des positions similaires. Et nous avons voté il n'y a pas très longtemps au Sénat, et malheureusement ce texte est passé, une proposition de loi déposée par la sénatrice Eustache Brigno qui restreignait l'accès aux soins des mineurs trans. Si ce type de proposition fait son chemin, nous mettons des enfants en danger et en danger de mort, en fait, parce que la transphobie, c'est pas simplement des mots, ça a aussi des conséquences très concrètes. On sait que les mineurs trans sont particulièrement à risque de suicide, et que les priver d'accès aux soins, c'est les mettre en plus grand danger encore. Aujourd'hui, en France, en 2024, on a un gouvernement où des ministres proposent ces choses-là. Et si la France se mettait sur ces positions, elle serait le pays le plus restrictif en Europe pour les personnes trans. C'est quand même, je veux dire, où on est, en fait. C'est pas la société française, en vrai. C'est complètement décalé avec ce que veut. Je veux dire, toutes les enquêtes d'opinion montrent que majoritairement, les gens sont de plus en plus favorables en France à l'égalité des droits. Et là, on a un gouvernement qui est en totale opposition avec ça et qui, de fait, est, au sens propre du terme, réactionnaire.
Et par rapport à ce sujet, en avril dernier, vous aviez défendu une proposition de loi qui visait à faciliter le changement de genre à l'état civil en déjudiciarisant la procédure. Donc il s'agit de pouvoir modifier la mention du genre sur son état civil par simple demande en mairie, sans passer par le tribunal. Selon vous, le Sénat peut-il s'en saisir ? Qu'a changé la dissolution de l'Assemblée nationale sur ce sujet ?
Alors, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, et je crois que arriver à gagner sur l'autodétermination par ce biais-là, c'est-à-dire le changement d'état civil, c'est bon. Non seulement c'est essentiel parce qu'en fait on peut plus tolérer qu'il passer devant un juge pour qu'on vous dise que vous avez le droit d'être qui vous êtes officiellement. Enfin, je veux dire, ça revient à ça, judiciariser la procédure de changement d'état civil, ce qui n'a aucun sens. Les juges ne sont pas formés pour déterminer l'identité des genres des personnes. Mais c'est aussi permettre de résoudre plein de discriminations qui résultent du fait qu'on n'a pas des papiers qui correspondent à notre identité de genre. Que ce soit quand on cherche un travail, que ce soit quand on cherche un logement, que ce soit dans tout un tas de procédure de la vie quotidienne, quand on doit montrer des papiers où est indiqué un nom et une mention de genre qui ne représentent pas notre identité sociale, on rencontre des discriminations. Et donc, en fait, changer ça, ça permet de résoudre plein d'autres problèmes qui sont créés par le fait que c'est judiciarisé. Je crois qu'on a des alliés à l'Assemblée nationale. Je suis en contact avec... Et d'ailleurs, une proposition de loi avait été déposée par le Nouveau Front Populaire, la même que celle que j'avais déposée au Sénat, et signée pas seulement par des députés de gauche et écologistes, mais aussi plus largement par des gens à l'époque de l'ancienne majorité présidentielle. Donc, on va travailler là-dessus avec la société civile, comme on l'avait fait sur la question du droit à l'IVG. J'espère qu'on pourra avancer. Voilà, je peux pas le garantir, mais en tout cas, ça fait partie pour moi des priorités. Je pense que les personnes trans ont été beaucoup oubliées des luttes, en tout cas des luttes législatives de ces dernières années en faveur de la communauté LGBT, et qu'il est temps que la France remonte dans le rang.
Et donc, d'après ce que vous dites, peut-être que la société française serait prête à évoluer sur ces questions-là. On a juste un gouvernement qui ne correspond pas à ce que les Français et les Françaises pensent aujourd'hui.
Ah oui, totalement. Moi, je pense pas du tout que l'obstacle à la déjudiciarisation de la procédure de changement d'état civil, c'est l'état de la société. Pas du tout. Enfin, je veux dire, honnêtement, je veux dire, personne n'est concerné par le fait que les personnes ont le droit d'être plus rapidement reconnues pour qui elles sont. Et encore une fois, il faut imaginer que la procédure aujourd'hui, elle requiert que vous puissiez prouver devant un juge que ça fait des années que ce qui est écrit sur vos papiers ne correspond pas à qui vous êtes. Donc en fait, on a une procédure en France qui oblige les gens à souffrir pendant assez de temps pour qu'ils puissent ensuite être reconnus pour qui ils sont. On a une obligation de souffrance dans la loi, au fond. Et c'est ça qu'il faut absolument arrêter. Et personne n'a rien à perdre à l'égalité des droits, et encore moins au fait que des personnes ne cessent de souffrir.
Le lobby, tous les vendredis à 14h en DAB+, sur Radio Campus Paris.
Je voulais aussi revenir un petit peu sur votre parcours, parce que vous vous intéressez donc particulièrement à des questions qui concernent la communauté LGBTQIA+, et vous êtes la seule femme lesbienne out au Sénat. Oui. Est-ce que faire votre coming out, c'était une évidence et une nécessité pour vous ? Comment s'est fait votre cheminement ?
Oui, en fait, quand j'ai commencé à avoir des responsabilités politiques, d'abord à la direction du Parti Vert Européen, puis quand j'ai été élue, pour moi, c'était évident que c'était important de visibiliser le fait que j'étais lesbienne. Je pense que pas tout le monde paye le même prix à être visible. Mais je pense que quand on en paye toujours un. On en paye aussi toujours un à ne pas l'être. Être dans le placard, c'est aussi très cher. Être out, ça l'est aussi, d'une autre manière. Mais en fait, quand on est parlementaire ou quand on est une personnalité publique en général, je pense qu'on a une forme de privilège qu'on doit en fait utiliser pour pouvoir faire avancer la lutte. Et c'était une évidence pour moi, mais j'avoue que quand je l'ai fait, j'ai réalisé que c'était encore plus important que ce que je pensais. Les réactions que j'ai eues, les messages que j'ai reçus, etc., je ne m'attendais pas à ce que ce soit si important pour les gens, en fait. À ce qu'il y ait tellement de gens pour qui ça change quelque chose de voir quelqu'un au Sénat, cette chambre poussiéreuse, conservatrice, masculine, âgée, de voir au Sénat quelqu'un avec qui il pouvait s'identifier, même si pas toute la communauté LGBT peut s'identifier à moi, mais une partie. Et j'avoue que ouais, c'était évident théoriquement, mais en pratique, je me suis rendu compte que c'était encore plus précieux que ce que je le pensais avant.
Et donc, c'était notamment lié à la représentation. Est-ce que, par exemple, vous avez eu des retours de lesbiennes qui ont eu envie de s'engager en politique parce qu'elles ont su que vous-même, c'est vrai ?
Oui. Oui, oui, oui. Je ne veux pas forcément dire qui, bien qu'elle l'ait déjà dit relativement publiquement. Mais oui, oui, il y a des personnes qui m'ont confié s'être engagée, s'être présentée à des élections suite à mon élection au Sénat. Et des personnes formidables, donc je pense que j'ai fait quelque chose de bien.
Et est-ce que vous observez une évolution au niveau politique ? Est-ce qu'on peut dire que de plus en plus de personnalités politiques queer décident de sauter ? Je pense à Lucie Castet ou à Sarah El Haïry. Ou est-ce que quand même ça reste minoritaire et rare ?
Bah, les deux. Je pense qu'il y en a de plus en plus, mais on est tellement loin que ça reste toujours minoritaire. Oui, il y a une évolution. Et en tout cas, je pense que des parcours comme le mien et d'autres, font partie du chemin vers cette évolution.
Et par rapport aux réactions, donc il y a surtout eu des réactions positives, d'après ce que vous dites,
ou
il y a eu quand même beaucoup de...
Non, je parle des réactions positives, mais non, je pense qu'il y a... Et oui, beaucoup de réactions négatives aussi, ouais.
Et comment est-ce que vous avez vécu ces réactions négatives ?
Les réactions négatives n'ont fait que me confirmer que j'avais raison de le faire. C'est-à-dire que quand le simple fait de dire qui vous êtes... de poster une photo avec votre compagne, alors que plein de gens postent des photos d'eux avec leur famille, etc., que ça génère autant de haine, autant de violence, autant de, d'appels. Enfin, moi, je veux dire, j'ai reçu des menaces de mort, de viol, etc., etc. Ça n'a fait que me montrer l'ampleur de la haine et la raison pour laquelle je le faisais. Parce qu'en réalité, quand on est sénatrice, écologiste, bon, je veux dire, les écologistes, c'est une famille politique qui est engagée pour l'égalité des droits. Je ne dis pas qu'on est parfait, mais disons, ce n'est pas le pire endroit pour faire de la politique quand on est une personne LGBT. Quand on voit comme ça la violence qu'il y a à l'extérieur, dans la société, voilà, ça fait que confirmer que c'était indispensable de le faire. Après, moi, j'ai toujours, depuis que je suis élue, je reçois beaucoup de réactions. Bah, c'est normal, quand vous devenez une personnalité publique, vous faites réagir des gens qui projettent sur vous des choses négatives, des choses positives. Je me suis toujours donné comme ligne de conduite de jamais oublier que c'est des gens qui projettent des trucs sur moi comme personnalité publique. C'est pas moi la personne, Mélanie Vogel, ils me connaissent pas. Et que ce soit les mots positifs, mais aussi les atrocités, j'essaye de faire la différence entre ce qui me concerne personnellement et ce qui concerne ce que j'incarne dans la société.
Et par rapport à ce que vous incarnez, donc le fait d'être la seule femme lesbienne out dans une institution comme le Sénat, où on a plutôt affaire à des hommes blancs, cisgenres de plus de 60 ans, est-ce que ça vous pousse à porter cette parole queer ? Et est-ce que vous réalisez que votre présence est encore plus importante ou c'est aussi un exercice de solitude et d'incompréhension parfois ?
Ben, un peu les deux. Mais c'est vrai que depuis que je suis élue, 'fin, y a des mots qui ont été prononcés au Sénat pour la première fois par mois. Par exemple, cisgenre. Quand j'ai dit à ma collègue Jacqueline Eustache-Brigno qu'elle était cisgenre, ce qui est, à ma connaissance, c'est un fait, elle a hurlé que c'était insultant. Bon, et beaucoup de gens, même des collègues proches, m'ont dit « mais ça veut dire quoi ?» Bon, voilà, il y a tout un tas de notions que j'ai été la première à verbaliser dans cet hémicycle. Et donc ça montre à quel point c'est important, parce que si j'ai été élue en 2021, si en 2021 on n'avait toujours pas dit cisgenre au Sénat, vous voyez qu'on a un gros problème quand même.
Et donc vous pensez que ça a amélioré la situation dans cette institution ? Enfin, est-ce qu'il y a plein d'autres mots qui ont été dits et que en fait on a besoin aussi de ces personnalités comme vous pour faire avancer les choses et faire évoluer le Sénat en même temps que les mentalités ?
Oui, en fait, je pense que forcément, et ça revient à la question plus large de pourquoi c'est important d'avoir une représentation diversifiée de la société dans nos institutions, c'est que forcément, quand vous avez que des gens qui sont d'une certaine catégorie de la population, ce groupe-là ne peut pas avoir une vision de la société qui correspond à la pluralité des situations que rencontrent les gens. C'est assez simple, je veux dire, si vous avez une chambre majoritairement masculine, majoritairement hétérosexuelle, majoritairement blanche, c'est une chambre qui va peu penser au sexisme, au racisme, au LGBTI-phobie, parce que les gens ne les vivent pas. Et donc, c'est simplement... quand on est confronté à certains problèmes dans la vie, on les a en tête, c'est tout. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est important d'avoir des parlements qui sont diversifiés, et pas que sur les questions d'identité de genre, etc. Je veux dire, il n'y a plus un ouvrier ni une ouvrière au Sénat. C'est aussi un problème.
Et est-ce qu'on peut, vous pensez qu'on va vers une diversification justement des profils, que ce soit au niveau de la classe sociale ou des minorités de genre, de classe, de race ou...
Non, pas forcément. En fait, on voit que c'est un combat de tous les jours, parce que, et comme en général, hein, l'égalité des droits, ça avance, mais ça peut régresser très rapidement. À l'Assemblée nationale, la parité a régressé en 2024, notamment du fait des députés extrême droite et de droite. Et donc, on n'est pas sur une progression linéaire. Petit à petit, ça va de mieux en mieux. Des fois, ça va mieux, et puis des fois, ça peut s'écrouler. Et donc, non, je pense pas qu'on soit forcément, voilà, de manière. Il faut toujours faire attention. Et en tout cas, la représentation, enfin, au Sénat, la représentation sociale et de, disons, des catégories socioprofessionnelles, elle s'est abîmée, en fait, puisque c'est le dernier ouvrier qu'on a eu représenté au Sénat, je ne sais plus quand c'était, mais c'était il y a quelques années, maintenant on n'en a plus. Et donc ça montre que, ok, bon, bah, on a une lesbienne, mais on n'a plus d'ouvriers, enfin, vous voyez,
c'est toujours. Il y a une personne qui représente l'ensemble des minorités.
C'est quand même un petit problème.
Et est-ce que dans votre parcours, vous diriez que le fait d'être une femme lesbienne, ça vous a incité à vous engager sur des problématiques qui vous tenaient à cœur et qui tenaient à cœur à la communauté queer ? Est-ce que il y a cette volonté de porter une parole LGBTQIA+, vous a incité à vous engager ?
En fait, je pense que c'est presque... Bon, déjà, oui, enfin, j'ai toujours été, d'aussi loin que je m'en souvienne, même quand j'étais très petite, et même si je le pensais pas comme ça, mais très, très énervée par le sexisme, par les discriminations, par le racisme, etc. J'étais une petite fille qui vraiment ne supportait pas ce genre d'injustice. Et donc, ça a toujours été un moteur de... raison pour laquelle je voulais faire quelque chose qui améliore la société, etc., etc. Mais après, je pense que le fait d'être lesbienne, ça a plutôt été dans l'autre sens, c'est que c'est pas la raison pour laquelle je me suis engagée en politique. Par contre, quand j'ai eu des responsabilités politiques, le fait que j'étais lesbienne a changé la manière dont j'ai perçu la manière dont je devais exercer mes responsabilités. Et le fait d'être visible, le fait de le dire, le fait de porter une voix que pas beaucoup d'autres personnes peuvent porter, c'était pour moi une responsabilité que j'avais parce que je suis lesbienne. Voilà.
Et donc, qu'est-ce que... Selon vous, votre lesbianisme a pu changer dans votre regard ? Vous avez dit tout à l'heure que quand on vit certains problèmes, on les a en tête. Est-ce que vous êtes particulièrement attentive et concernée par certains sujets plus que d'autres personnalités ?
Oui, alors il y a le fait d'être, de vivre, en fait, quand on est lesbienne et qu'on on vit d'une manière en dehors de l'hétéronormativité et de l'hétérosexisme, même si on vit dans une société dans laquelle il domine, mais on a un chemin qui l'emprunte pas dans nos vies personnelles, ça crée un rapport différent à beaucoup de choses. Et moi, je me souviens, par exemple, de la... Ce que je veux dire, c'est que ça ne crée pas qu'une sensibilité aux problèmes, à la haine lesbophobe, aux violences, aux discriminations, etc. Ça crée aussi ça, mais ça crée aussi une forme d'émancipation de ces cadres-là. Et moi, je me souviendrai toujours au moment du Covid, quand on a eu le confinement, etc. J'ai réalisé ce que décrit très bien Alice Coffin dans son livre sur le génie lesbien, que j'avais lu, que j'ai trouvé très intéressant, mais quand, au moment du Covid, j'ai vraiment réalisé ce truc que tous les amis que j'avais qui étaient dans des relations hétérosexuelles et qui se sont retrouvés à la maison, se sont retrouvés soudainement, même si elles étaient dans des relations qui, a priori, étaient plutôt égalitaires, elles se sont retrouvées dans un rapport genré des rôles à la maison, etc. Et moi, avec mon ancienne compagne, ça ne s'est pas du tout arrivé, pas du tout. Et j'ai réalisé à quel point cette base de ne pas vivre, de ne pas avoir comme base les barrières que met sur les femmes l'hétérosexisme, eh ben, ça permet plein de possibilités. Et quand on n'a pas quelqu'un à la maison qui attend de vous, que vous occupiez des enfants, que vous fassiez la vaisselle, que vous habillez comme ça, eh ben, ça ouvre aussi un monde qui est plus difficile, je pense parfois, pour les femmes hétérosexuelles. Donc en fait, on subit la lesbophobie, mais on a aussi beaucoup de chance.
Et quelles sont les mesures qui vous tiennent le plus à cœur en ce moment ? Est-ce que, bon, malgré cette situation troublée, quels sont les espoirs que vous avez pour la suite ? Est-ce qu'il y a des propositions de loi, des idées, des choses qui vous font particulièrement réfléchir en ce moment ?
Alors déjà, comme on disait tout à l'heure, moi j'ai peur pour les personnes trans aujourd'hui, parce que on a très peu avancé sur les droits des personnes trans. Bon, on a démédicalisé le changement de sexe à l'état civil en 2016. C'est à peu près tout ce qu'on a fait pour les personnes trans ces dernières années. Et on vit en France depuis 4 ans une vague de transphobie qui est vraiment alimentée dans la classe politique et dans les médias, et qui met les personnes trans en grand danger. Et donc, moi, j'ai toujours considéré que dans une situation de risque pour les droits, la meilleure stratégie, c'était la conquête de nouveaux droits. Et j'espère vraiment qu'on va réussir à gagner des combats pour l'égalité des droits, notamment pour les personnes trans. C'est pour ça que je travaille avec des collègues de l'Assemblée nationale et avec des organisations de la société civile sur la question du changement de sexe à l'état civil, parce que ben, je pense que c'est pas impossible de gagner ça, et que ça changerait beaucoup, et que ça fait partie de la manière dont on lutte contre la haine. Après, il y a un autre sujet qui me tient beaucoup à cœur et où j'ai... Bon, après, moi, je suis pas optimiste ni pessimiste. Généralement, je considère que si on travaille beaucoup, des fois, on arrive à quelque chose. Mais je vois quand même une possibilité pour faire avancer la question de la définition pénale du viol. On a aujourd'hui... la société qui s'est rendue compte que c'était un sujet à l'occasion du procès des viols de Mazan. Voilà, j'ai déposé une proposition de loi l'année dernière là-dessus, qui a eu un certain écho, puis là qui en a un nouveau parce que la société se pose cette question. Il y a à l'Assemblée nationale beaucoup de parlementaires qui sont en faveur d'une modification du code pénal, et un ministre de la Justice que je vais rencontrer dans quelques semaines qui, contrairement à Éric Dupond-Moretti ces dernières années, s'est prononcé clairement en faveur. Et donc, on a des parlementaires qui veulent faire ça. On a aujourd'hui la personne responsable au gouvernement qui est favorable. On a la société qui est très sensible. Et je pense qu'on a une opportunité là pour avancer sur ce sujet.
Merci beaucoup, Mélanie Vogel, d'être venue parler avec nous des questions queer en politique et d'identité LGBTQIA+. On peut alors encourager nos auditeuristes à s'engager en politique pour porter cette parole queer en cette période particulièrement troublée, éprouvante. On se quitte comme chaque semaine avec une nouveauté musicale. On écoute l'artiste hyperpop Thanks for Crying et son tout dernier titre sorti cette semaine, Bizarre.
C'est une vie bizarre. Une vie bizarre qui nous attend. Ça, on le sait depuis longtemps. Depuis que l'on a 17 ans. On marche dans le noir. Au hasard, à travers rue, à travers.
Cette émission a été présentée par Juliette Moulic, réalisée par Colin Gruel. Tous nos épisodes sont à retrouver sur le site Radio Campus Paris et sur les applications de podcast. On se retrouve vendredi prochain et d'ici là, vous pouvez nous suivre sur Instagram @lelobbyrcp. À bientôt. Je vois les autres gens.
mais l'innocence, on nous l'a prise y'a un moment. On l'a perdue depuis longtemps. Depuis que l'on a 17 ans.